Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce matin, 115 personnes évacuées de la bande de Gaza à la demande de la France sont arrivées à l'aéroport d'Orly. Alice Froussard était avec eux, elle nous raconte ça dans un instant. Depuis l'attaque du 7 octobre, 500 personnes ont été évacuées de Gaza par la France. Le Rwanda et la RDC se donnent jusqu'au 2 mai pour parvenir à un projet d'accord de paix et ils s'engagent à respecter leurs souverainetés respectives. Le texte a été signé à Washington. Depuis plusieurs mois, le M23, soutenu par Kigali, a intensifié son offensive dans l'est de la RDC. En France, on n'en sait plus sur l'adolescent qui a tué une élève et en a blessé 3 autres hier à coups de couteau à Nantes. Aucun mobile ne peut être évoqué de façon certaine, a indiqué ce vendredi le procureur Antoine Leroy, qui décrit un jeune à l'évidence suicidaire avec une certaine fascination pour Hitler. Nous entendrons Antoine Leroy dans ce journal. À Gaza, 12 personnes, dont une femme enceinte et ses 3 enfants, ont été tuées ce vendredi dans des frappes israéliennes, selon les secouristes. Et 11 corps supplémentaires ont été retrouvés dans une maison qui avait été touchée hier par un bombardement. Un bombardement qui aura fait au final 23 morts. De son côté, le Programme alimentaire mondial annonce qu'il a épuisé tous ses stocks à Gaza. Gaza où Israël bloque l'entrée de toute aide humanitaire. Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, dénonce une famine provoquée par l'homme. Et c'est dans ce contexte qu'un groupe de 115 personnes évacuées de la bande de Gaza à la demande de la France sont arrivées ce vendredi à l'aéroport d'Orly. Alice Froussard était sur place.
Sur place, il y avait des applaudissements timides et surtout des larmes, des scènes d'embrassade après des mois de souffrance, d'attente et plusieurs faux espoirs. Parmi eux, il y avait Mohamed, un musicien de Gaza qui collectionnait les guitares, qui retrouvait sa femme et ses 3 enfants après 617 jours de séparation. C'est un miracle, nous a-t-il confié. Ces 115 Gazaouis arrivés en France ont donc pu retrouver leurs proches. Ils avaient d'abord reçu un SMS du consulat français à Jérusalem avec un point de rendez-vous. Ils ont été évacués de la bande de Gaza ravagée par la guerre en bus direction la Jordanie pour y récupérer des visas avant de prendre un avion vers la France. Ce sont des personnes qui ont demandé une procédure de réunification familiale, c'est-à-dire qui ont un lien particulier avec le pays, des étudiants, des chercheurs, des artistes lauréats du programme PAUSE, des membres de l'Institut français de Gaza. Tous avaient cependant une pensée émue, presque coupable pour tous les Gazaouis restés derrière, ceux qui n'ont pas pu fuir cette guerre.
Et toujours de sources diplomatiques, 500 personnes ont été évacuées de Gaza par la France depuis l'attaque du 7 octobre. Le Rwanda et la RDC se donnent jusqu'au 2 mai pour parvenir à un projet d'accord de paix et ils s'engagent à respecter leurs souverainetés respectives. L'accord a été signé à Washington par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, aux côtés du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ces derniers mois, le groupe armé M23, soutenu par Kigali, a intensifié son offensive, ce qui lui a permis de prendre 2 grandes villes de l'Est de la RDC, Goma et Bukavu. En France, et contrairement à ce qu'il soutient, François Bayrou aurait échangé en 1998 avec un juge chargé d'enquêter sur les violences commises à Notre-Dame de Bétarame. C'est en tout cas ce qu'affirme une des filles du Premier ministre, Hélène Perland, sur le site d'information Mediapart. Hélène Perland qui ajoute que son père n'a jamais voulu couvrir les abus commis dans l'établissement scolaire privé. Dans l'ouest de la France, à Nantes, le procureur de la République a dressé aujourd'hui devant la presse le portrait de l'adolescent qui a tué hier à coups de couteau une de ses camarades et en a blessé 3 autres. C'était à la mi-journée devant l'établissement catholique Notre-Dame. Le procureur Antoine Leroy.
Et c'est un jeune décrit par tout le monde comme étant extrêmement solitaire. Peu d'amis, voire pas du tout. Peu de dialogue avec grand monde. Personnalité qui a inquiété sa mère, puisque c'est un jeune qui vit avec sa mère puisque les parents sont séparés. À telle enseigne que sa mère a estimé opportun de faire en sorte qu'il rencontre des personnels éducatifs de la maison des adolescents de Nantes. Depuis janvier, ce jeune avait donc à 6 reprises rencontré des personnes susceptibles de l'aider. La deuxième chose, c'est que dans cette personnalité, il résulte assez clairement une certaine fascination pour Hitler. Cette fascination a été repérée par le personnel enseignant de l'école dans laquelle il était, de sorte qu'il a été convoqué avec sa mère la veille des vacances de Pâques. Troisième trait de personnalité, il s'agit d'un jeune à l'évidence suicidaire, à telle enseigne que ce jeune va sans doute rejoindre une unité susceptible de traiter cette tendance suicidaire.
Le procureur Antoine Leroy. Aux États-Unis, le FBI arrête une juge pour entrave à l'arrestation d'un migrant. C'est le directeur du FBI lui-même, Kash Patel, qui l'a révélé sur X. avant que sa publication ne soit supprimée de la plateforme. Cash Patel y affirmait que la juge Anna Degan avait été arrêtée, soupçonnée d'avoir intentionnellement détourné des agents de la police de l'immigration de la personne qui devait être appréhendée dans son tribunal. Au Brésil, arrestation de l'ancien président Fernando Collor de Mello, qui a dirigé le pays de 1990 à 1992. Il a été condamné en 2023 après de 9 années de prison pour corruption et ce vendredi, la Cour suprême a rejeté un ultime recours de sa défense. Fernando Collor de Mello avait été le premier président à être élu après la dictature militaire, mais il avait démissionné à mi-mandat après des accusations justement de corruption. RFI 1h35 à New Delhi. Mardi, 26 civils sont morts en Inde, dans la région contestée du Cachemire. New Delhi estime qu'Islamabad soutient les terroristes responsables des attaques et a lancé une série de mesures de rétorsion vers le Pakistan, qui a répondu. Diplomates expulsés, frontières fermées, l'ONU appelle à la retenue, mais l'Inde a donné jusqu'à ce dimanche aux Pakistanais présents sur son sol pour quitter le pays. Avec des exceptions, la situation reste confuse. Nicolas Roca.
Le sort des ressortissants pakistanais en Inde reste très flou. Déjà impossible de savoir combien ils sont, beaucoup sont entrés illégalement et il n'y a pas eu de recensement de la population en Inde depuis 2011. Tous les Pakistanais ne seront pas concernés par l'expulsion. Pourtant, le ministère des Affaires étrangères indien avait d'abord annoncé l'arrêt de toutes les procédures de visa et l'annulation de ceux déjà acceptés. Quelques heures plus tard, il a été précisé que cette expulsion ne concernerait pas les Pakistanais hindous disposant d'un visa long séjour. Et puis finalement, une source diplomatique affirme que tous ceux qui possèdent un visa résident pourront rester, comme les diplomates qui n'ont pas encore été expulsés par New Delhi. Les étudiants, les fonctionnaires, les journalistes devront partir, seule exception, ceux avec un visa médical qui ont 2 jours de plus pour quitter le pays. Certains Pakistanais sont déjà partis, sans vol direct, ils doivent passer par la route, au seul poste frontière entre les deux pays, ou bien faire escale dans un pays tiers.
À la basilique Saint-Pierre de Rome, les hommages au pape François ont maintenant pris fin, mais depuis lundi, ce sont environ 250 000 personnes qui sont passées devant son cercueil dans la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est demain que doivent se tenir les funérailles. 50 chefs d'État et 10 monarques vont y assister. Alors les alentours de Saint-Pierre de Rome sont donc placés sous haute protection, système anti-drone, tireurs d'élite sur les toits ou encore avions de chasse prêts à décoller. La Russie, elle, est prête à un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est ce qu'annonce le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, qui précise quand même que sur cet accord présenté par Donald Trump, certains éléments spécifiques doivent être peaufinés. Cette déclaration arrive après l'avertissement du président américain à son homologue russe suite à la frappe sur Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, va examiner une plainte de Pékin, plainte contre la décision de l'Union européenne d'imposer des droits de douane sur les voitures électriques en provenance de la Chine. Les précisions d'Agnieszka Kumor.
Les mesures imposées par Bruxelles sont incompatibles avec les règles du commerce international, a plaidé auprès de l'OMC le représentant de la Chine. Toutefois, Pékin reste ouvert au dialogue. Selon son responsable, la recherche d'une solution aux différends serait toujours envisageable. L'UE, quant à elle, a fermement défendu sa position, jugeant ces mesures pleinement justifiées. Les taxes européennes, qui peuvent aller jusqu'à 35%, ont été annoncés en octobre dernier après une enquête de l'UE estimant que les subventions publiques chinoises menaçaient les constructeurs automobiles européens. La Chine a porté l'affaire devant l'OMC à la fin de l'année dernière, soulignant qu'elle n'était pas d'accord avec ses droits de douane. Bruxelles avait bloqué la première demande de la Chine de constituer un groupe d'experts, mais la deuxième demande chinoise a finalement été acceptée. Cette affaire survient alors que la Chine cherche en l'UE un allié dans sa guerre commerciale qui l'oppose à Washington.
340 milliards d'euros, c'est la somme astronomique que le Royaume-Uni va devoir débourser sur 25 ans pour financer les infrastructures de l'eau dans le pays. Des infrastructures obsolètes qui provoquent des épisodes de pollution à répétition. Les compagnies des eaux britanniques ont été privatisées en 1989. Leur sous-investissement est chronique pour un système qui date toujours en grande partie de l'époque victorienne. Et puis un tribunal néerlandais interdit l'utilisation du mot Lego à un fabricant de moules à béton qui avait déjà commencé à l'utiliser sur son site web, ce qui selon le tribunal lui conférait un avantage déloyal. L'entreprise avait évidemment été traînée devant les tribunaux par la célèbre fabrique de jouets Lego. Je ne sais pas si vous connaissez. RFI 22h10 à Amsterdam.